Idaho se remémora les paroles prononcées par l'empereur Dieu lors d'une conversation à la citadelle. La loyauté est dans une armée où il n'y a que des hommes, s'attache à l'armée elle-même plutôt qu'à la civilisation qui lui sert de support. Dans une armée de femmes, la loyauté se polarise sur le chef. Idaho voyait, à travers sa vision troublée, le témoignage tangible de ce qu'avait créé Leto. Il constatait la précision pénétrante des paroles de l'empereur Dieu, redoutait cette précision. « Il m'offre cela en partage », se dit-il. La réponse qu'il avait donnée à Leto lui paraissait maintenant puérile. « Je ne vois pas pour quelle raison », avait-il murmuré. « La plupart des êtres humains ne sont pas des créatures de raison. Aucune armée d'hommes ou de femmes ne peut garantir la paix. Si elle ne règne pas dans votre empire, c'est que vous ne... Mes truitesses ne t'ont pas donné nos livres d'histoire ? Oui, mais j'ai aussi parcouru les rues de votre cité. J'ai observé vos sujets, ils sont agressifs. Tu vois, Duncan, la paix encourage l'agressivité. Mais vous prétendez que votre sentier d'or, il ne s'agit pas précisément de paix. Il s'agit de tranquillité, c'est-à-dire d'un terrain propice à l'établissement de classes rigides ainsi que d'un certain nombre d'autres formes d'agression. Vous parlez par énigme. Je parle en fonction d'observations multiples qui m'ont appris que la posture pacifique est celle de la défaite, celle de la victime. La victime appelle l'agression. Encore votre fichue tranquillité forcée. Que peut-elle amener de bon? S'il n'y a pas d'ennemi, il faut en inventer un. La force militaire qui se voit refuser une cible extérieure se retourne toujours contre ses propres populations. À quel jeu jouez-vous? Je modifie le désir de guerre des humains. Les hommes ne veulent pas la guerre, ils veulent le chaos. La guerre est la forme de chaos la plus facile à obtenir. Je ne crois pas un mot de tout cela. Je ne sais à quel jeu dangereux vous jouez. Très dangereux. Je m'adresse aux anciennes sources du comportement humain pour les réorienter. Le danger réside en ce que je risque de détruire les forces de survie humaine. Mais je t'assure que mon sentier d'or perdure. Vous n'avez pas détruit les antagonismes. Je dissipe les énergies en un point et les oriente vers un autre point. Ce qu'on ne peut maîtriser, on le canalise. Qu'est-ce qui empêchera votre armée de femmes de prendre le pouvoir? Je suis leur chef. Et tandis qu'il contemplait toutes ces femmes assemblées dans le grand hall, Idaho ne pouvait nier la focalisation du pouvoir en question. Qui plus est, il percevait le rôle qu'il jouait dans cette focalisation. Une partie de l'adoration était dirigée vers sa personne. La tentation qu'il y avait là. Tout ce qu'il aurait voulu leur demander. Il y avait dans ce hall un pouvoir latent effroyable. Tout cela forçait Idaho à s'interroger encore plus profondément sur certaines paroles qu'avait prononcées Leto depuis son arrivée. Il avait parlé de violence explosive, et dans le silence qui régnait à présent parmi les femmes en prière, le Gola se remémora cette autre conversation. Je t'assure, Duncan, que les hommes sont plus sensibles aux fixations de classe. Ils créent des sociétés hiérarchisées, et une société hiérarchisée représente l'incitation ultime à la violence. Elle ne peut se désagréger simplement. Il faut qu'elle explose. Cela n'arrive jamais aux femmes? Non. À moins qu'elles ne soient presque totalement dominées par les mâles ou prisonnières d'un modèle masculin. Il ne peut y avoir autant de différence entre les sexes. C'est pourtant le cas. Les femmes font cause commune à cause de leur sexe, qui transcende caste et classe. Voilà pourquoi je laisse mes truitesses tenir les rênes. Idaho était bien forcé d'admettre que les femmes qui étaient en train de prier devant lui tenaient effectivement les rênes. Quelle part de ce pouvoir accepterait-il de faire passer entre mes mains? La tentation était monstrueuse. Idaho en était tremblant. Avec une soudaineté qui le glaça, il se rendit compte que ce devait être précisément l'intention de Leto. Le tenter. Dans le grand hall, les femmes, ayant fini de prier, relevèrent les yeux vers Leto. Idaho songea qu'il n'avait jamais vu jusque-là des visages humains briller d'une telle extase, ni dans l'abandon de l'amour, ni dans la gloire victorieuse des armes. Jamais il n'avait rien vu qui approchât l'intensité de cette adoration.
« À mes côtés aujourd'hui se trouve Duncan Idaho !»
fit Leto d'une voix vibrante.
« Il est ici pour affirmer sa loyauté devant vous toutes. Duncan ?»
Idaho sentit des aiguilles de glace lui percer les entrailles. Le choix que lui laissait Leto était simple. Déclare ta loyauté ou meurs. Si j'hésite, refuse ou me dérobe d'une quelconque manière, ces femmes me tueront de leurs propres mains. Une profonde fureur envahit le Gola. Il déglutit, se racla la gorge, puis déclara « Que personne ne mette ma loyauté en doute. Je suis loyal aux Atreides. » Il entendit sa voix répercuter sous la voûte, amplifiée par les appareils ixiens de l'étau. Cela eut sur lui un effet détonnant.
« Nous partageons !»
hurlèrent les femmes.
« Nous partageons ! Nous partageons !»«
Nous partageons !» fit l'étau.
De jeunes recrues truitesses, reconnaissables à leurs robes vertes plus courtes, se répandirent dans le hall de tous les côtés, fendant la foule des adoratrices. Chacune tenait un plateau rempli de minuscules hosties brunes. Au passage, les mains se tendaient en grappes de mouvements gracieux, chaque bras brandissant bientôt son hostie. Quand l'un des plateaux fut à la portée du Duncan, Leto lui ordonna
« Prends deux hosties et mets-en une dans ma main. »
Idaho se hissa pour prendre les deux hosties, qui lui parurent légères et fragiles. Il se releva et en passa une à Leto avec précaution. D'une voix de stentor, l'empereur Dieu demanda
« La nouvelle garde a été désignée ?»«
Oui, seigneur !»
hurlèrent les femmes.
« Êtes-vous les gardiennes de ma foi ?»«
Oui, seigneur !»«
Suivez-vous le sentier d'or ?»«
Oui, seigneur !»
Les vibrations de ces clameurs pénétraient Idaho, qu'elles étourdissaient.
« Faisons-nous le partage ?»
demanda Leto.
Oui, seigneur.
À cet instant, Leto porta son hostie à sa bouche. Les mères devant l'estrade mordirent dans la leur et donnèrent le reste à leur enfant. Les autres truitesses baissèrent le bras et avalèrent leur hostie.
Mange la tienne. Duncan, lui dit Leto.
Idaho mit l'hostie sur sa langue. Son corps de gola n'était pas conditionné à l'épice, mais sa mémoire parlait à ses sens. Cela avait un goût légèrement amer, et la présence du mélange était à peine perceptible. C'était toutefois suffisant pour qu'une vague de souvenirs anciens défile dans son esprit. Repas au siège, banquet à la résidence des Atréides. L'odeur de l'épice, dans l'ancien temps, était presque partout. En avalant son hostie, Idaho prit soudain conscience du silence qui s'était de nouveau établi dans le hall, où tout le monde semblait retenir sa respiration. Et au milieu de ce silence retentit un clic sonore qui provenait du chariot royal. Idaho se retourna pour voir quelle était la cause de ce bruit. Leto avait ouvert un casier dans le plancher du chariot et en avait retiré un écrin de cristal qui rayonnait d'une lueur bleu-gris. L'empereur Dieu posa l'écrin devant lui, souleva le couvercle phosphorescent et en sortit un kris. Idaho reconnut immédiatement l'objet, au faucon gravé sur le pommeau et aux pierres précieuses incrustées dans le manche. Le kris de Paul Muad'Dib. Le Duncan fut profondément ému par la vue de cette arme. Il la contemplait comme si son propriétaire original allait bientôt apparaître. Leto brandit la lame à la courbe élégante et à la phosphorescence laiteuse.
« Le talisman de nos vies !» dit-il.
Les femmes demeuraient silencieuses, leur attention envoûtée.
« Le poignard de Paul Muad'Dib !» reprit Leto. « La dent de Shai-Hulud !»« Shai-Hulud reviendra-t-il ? »
La réponse fut un murmure sourd que le contraste avec les cris précédents rendait encore plus impressionnant.
« Il reviendra, Seigneur !»
Idaho regardait, fasciné, les visages extasiés des Truites.
Qui est Shai Hulud ?
Demanda Leto. De nouveau, la rumeur sourde lui répondit.
Vous êtes Shai Hulud, seigneur.
Idaho acquiesça en son fort intérieur. Il y avait là la preuve indéniable que Leto puisait à un immense réservoir de pouvoir, jamais utilisé jusque-là tout à fait de cette manière.
Leto lui-même l'avait dit, mais les mots n'étaient rien comparés à la chose réellement vue et ressentie dans le grand hall.
Les paroles de Leto revinrent cependant à la mémoire du Gola, comme si elles avaient attendu ce moment pour revêtir leur véritable signification. L'empereur Dieu et lui étaient alors dans la crypte, ce lieu sombre et humide, auquel Leto semblait trouver tant d'attrait, mais qui répugnait à Idaho, qui n'y voyait que la poussière des siècles exhalant les odeurs d'immémoriales décompositions.
Depuis plus de 30 siècles, je m'applique à former cette société humaine et à la façonner pour que l'espèce humaine sorte enfin de l'adolescence, lui avait dit Leto.
Rien de tout cela n'explique la nécessité d'une armée de femmes, avait protesté Idaho.
Le viol est un comportement étranger aux femmes, Duncan. Tu veux une différence expliquée par le sexe? La voilà.
Allez-vous cesser de changer de conversation?
Je n'en ai pas changé. Le viol a toujours été une récompense dans la conquête militaire mâle. En se livrant au viol, les mâles n'avaient pas à renoncer à leur fantasme d'adolescent.
Idaho se souvint de la rage sourde qui s'était emparée de lui en entendant l'empereur Dieu proférer ces paroles.
Mais Uri pacifie les mâles, reprit Leto. La domestication, c'est une chose que les femmes connaissent par nécessité depuis des éternités.
Idaho s'était contenté de fixer sans rien dire le visage encadré de repli de Leto.
Domestiquer, continua Leto, c'est introduire un ordre de survie cohérent. Ce sont les hommes qui l'ont appris aux femmes. À présent, les femmes l'enseignent aux hommes.
Mais vous disiez,
mais Uri se soumettent souvent au début à une sorte de viol, uniquement pour pouvoir ensuite convertir cette relation en une dépendance profonde et contraignante.
Bon sang, vous êtes
contraignant, Duncan. Contraignant.
Je ne me sens contraint à...
L'éducation prend du temps. Tu es la norme ancienne qui permet de mesurer la nouvelle.
Les paroles de Leto avaient pour un temps vidé Idaho de toute émotion autre qu'un sentiment de désarroi profond.
Mais Uri enseigne la maturation, avait repris Leto. Elles savent que leur rôle est de superviser la maturation des mâles. Et ce faisant, elles atteignent leur propre maturation. À la fin, les Uri deviennent des épouses et des mères de famille. Et nous pouvons éliminer les impulsions violentes de leur fixation d'adolescence.
J'attendrai de le voir pour le croire.
Tu le verras pendant le grand partage.
Immobile devant Leto dans le hall du Sienok, Idaho était bien obligé d'admettre qu'il y avait des pouvoirs énormes contenus dans ce qu'il venait de voir. Des pouvoirs capables de donner naissance au genre d'univers humain que décrivaient les mots de l'empereur Dieu. Leto était en train de replacer le Christ dans son écrin, qu'il remit à sa place dans le plancher du chariot. Les femmes contemplaient ses gestes en silence. Même les très jeunes enfants étaient silencieux. Toute l'assistance semblait subjuguée par la force que l'on ressentait dans le grand hall. Idaho regarda ses enfants. Il savait, d'après ce que lui avait dit Leto, que tous accéderaient un jour, les garçons comme les filles, à d'importantes positions de pouvoir, à de puissantes destinées. Les enfants mâles, cependant, seraient toujours dominés par les femmes, passant, selon les propres mots de Leto, par une transition sans heurts de leur état d'adolescent à celui de mâle reproducteur. Les truites et leur progéniture vivraient quant à elles une existence agrémentée de certaines satisfactions interdites à la plupart des autres.
Quel sort connaîtront les enfants d'Irti ? Se demanda Idaho.
Mon prédécesseur s'est-il un jour trouvé ici pour voir sa femme en robe blanche partager le rite de Leto ? Quel présent m'offrit-il, Leto ? Avec cette formidable armée de femmes, un chef ambitieux pouvait s'emparer de l'Empire. Mais était-ce bien certain ? Pas du vivant de Leto, en tout cas. D'après l'Empereur Dieu, ces femmes n'étaient pas, par nature, militairement agressives. « Je n'entretiens pas cette qualité en elles, » avait dit Leto. « Elles suivent un rythme cyclique, des festivités tous les 10 ans avec changement de la garde, bénédiction pour la nouvelle génération, une pensée silencieuse pour les sœurs tombées au combat et tous les chers disparus. Sieinok après Sieinok, la marche en avant est réglée une fois pour toutes. Le changement lui-même devient immuable. » Quittant du regard les femmes en blanc et leurs enfants, Idaho contempla la masse silencieuse des truitesses, en se disant qu'il n'avait devant lui qu'un noyau minuscule de cette énorme force qui couvrait tout l'Empire de ses ramifications féminines. Il n'avait pas de mal à croire ce que disait Leto.
Leur pouvoir ne faiblit pas. Il se renforce à chaque décennie.
À quelle fin ? Se demanda Idaho. Il jeta un regard à l'Empereur Dieu dont les bras étaient levés pour bénir ses houris.
« Nous allons maintenant descendre parmi vous, » dit Leto.
Les femmes devant l'estrade ouvrirent un passage en refluant de chaque côté. Le chemin se fraya dans la foule comme une fissure qui se propage sur la croûte terrestre à la suite de quelque formidable soulèvement naturel.
« Tu me précéderas, Duncan, » dit Leto.
La gorge sèche, Idaho déglutit. S'appuyant d'une main au bord de l'estrade, il sauta dans l'espace libre et s'enfonça dans la fissure, sachant que c'était la seule manière de mettre fin à cette épreuve. Jetant un rapide coup d'œil en arrière, il s'assura que Leto suivait, son chariot flottant majestueusement sur les suspenseurs. Idaho marcha un peu plus vite. La double haie de femmes se resserra. Cela fut accompli dans l'immobilité étrange des regards fixés d'abord sur Idaho, puis sur le gigantesque corps prévermiforme allongé dans le chariot ixien. Tandis que le Gola allait stoïquement de l'avant, les bras des femmes se tendaient sur son passage pour le toucher, ou pour toucher Leto, ou encore simplement le chariot royal. Il y avait dans ce contact une passion retenue qui fit éprouver à Idaho la plus profonde frayeur de toute son expérience.